Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis. À demain. Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20 commence comme chaque soir avec ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mercredi 15 décembre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel ce soir commence par des cortèges.
Magistrats, greffiers, avocats, main dans la main pour dénoncer une justice malade et réclamer des moyens dignes. Des milliers de manifestants dans la France entière, une journée de mobilisation historique. On y revient dans un instant. Attendez-vous à de fortes perturbations à la SNCF à partir de demain et surtout ce week-end. Grève dans les RER et Transiliens d'Île-de-France jeudi, vendredi. Grève aussi vendredi et ce week-end sur les TGV. Un train sur deux en direction du Sud-Est. Précision à suivre. À suivre également les comités pro-Macron pour 2022 qui se mettent en place à l'étranger. L'Italie qui serre la vis aux voyageurs européens à partir de demain. Une année 2021 un peu moins chaude mais un répit de courte durée. Et pour finir, des baskets virtuelles pour évoluer dans le métavers. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. On vous explique en fin de journal.
À 18h15, un jour dans le monde ce soir, puisque la France commence à vacciner les enfants fragiles de 5 à 11 ans. Vous verrez que les mêmes débats secouent la plupart des pays. Les Allemands sont comme nous, les Espagnols vaccinent tous les enfants. Nous irons aussi en Suède et en Israël. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne. Aujourd'hui, cette question pour vous faire réagir. Savez-vous qui il faut remercier d'avoir trouvé un vaccin en moins d'un an? Bien sûr, les chercheurs, mais aussi les souris, les furets, les hamsters, les primates. L'expérimentation animale, ça existe encore. Un sondage tout récent pour les chercheurs du GIRCOR dit combien ça vous gêne. Il dit aussi combien nous ignorons tout de ce type d'expérimentation. On posera aussi la question de savoir pourquoi les animaux sont toujours indispensables à la recherche. Ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc une mobilisation inédite pour le monde judiciaire.
Oui, des centaines de juges, de fonctionnaires du greffe, d'avocats en robe noire rassemblés devant les cours d'appel, pancartes en main pour dénoncer une justice à bout de force. Des appels communs à la grève de 17 organisations syndicales avec à la clé des renvois massifs d'audience, bref, du jamais vu au sein de ces corporations. Bonsoir Laurélie Carrive.
Bonsoir.
Au total, avec Paris, ce sont une trentaine de villes en France qui ont vu défiler des manifestants aujourd'hui.
Oui, Lille, Nîmes, Amiens, Bourges, La Rochelle, Vannes, Guéret, Orléans, pour ne citer qu'elles, des magistrats, mais aussi de nombreux greffiers, des avocats, et partout, les mêmes mots reviennent : justice dégradée, manque de moyens, épuisement professionnel. Gaëlle Bardos est magistrate à la cour d'appel de Grenoble. Elle est au micro de France Bleu Isère.
Le travail, c'est le samedi, le dimanche, 7h du mat, 22h le soir, ça n'a plus de sens. On a beau essayer de faire un maximum, on rentre à la maison, on se dit qu'on a toujours nos urgences et qu'on ne les a pas traitées. Et le lendemain, eh ben, on arrive au travail avec tout ça en tête et un stress qui revient. Mais c'est le quotidien.
En face, l'incompréhension de justiciables face à des délais qui s'allongent. Alice Maintigneux est juge d'application des peines à Pontoise.
Il y a des personnes que je dois faire attendre 6 mois, 8 mois pour pouvoir audiencer leur requête en aménagement de peine parce que j'ai pas de plage d'audience suffisante. Et ça qui est particulièrement insatisfaisant.
Des conditions qui ont de quoi ébranler certaines vocations, comme l'explique au micro de France Bleu Maine Magali. Elle est greffière depuis 3 ans maintenant au Mans.
Autant je suis rentrée en me disant oui, greffier c'est un métier vraiment je pourrais faire toute ma vie, autant avec les conditions actuelles je me pose vraiment la question. Au bout d'un moment je pense que ça me rendrait malade. Moi je comprends les collègues qui sont en burn-out, je comprends les collègues qui sont en arrêt maladie parce qu'il y a des moments c'est trop lourd.
Au sein de ces rassemblements, beaucoup expriment leur défiance face à un garde des Sceaux qui, disent-ils, refuse d'entendre. À Paris, le rassemblement a d'ailleurs eu lieu non pas devant le ministère de la Justice, mais devant celui de l'économie. Une délégation de l'intersyndicale doit être reçue d'ici une heure maintenant par le cabinet du ministre chargé des comptes publics, Olivier Dussopt.
Laurélie Carrive, merci du service police-justice de France Inter.
Et là, c'est un autre mouvement social qui risque bien de perturber les départs en vacances.
Et une grève à la SNCF à partir de demain. Et aussi pour ce week-end, avec notamment de grosses perturbations à prévoir sur les TGV Sud-Est. On va y revenir en détail. La direction et les syndicats négociaient depuis plusieurs jours sur des revendications salariales, mais les discussions ont échoué. La SNCF qui affirme pourtant avoir répondu, je cite, positivement aux demandes. Faut répondre les organisations syndicales. Voilà pour l'impasse des négociations. On en vient maintenant aux conséquences pour les usagers. Elles risquent d'être lourdes. Bonsoir, Lauriane Delanoë.
Bonsoir.
D'abord, trafic très dégradée sur les TGV Sud-Est pour les départs en vacances de Noël ce week-end.
Oui, à partir de vendredi. Et c'est pour l'instant la seule prévision qu'on a donnée tout à l'heure à l'instant par le PDG de SNCF Voyageurs. Donc un train sur deux, un TGV sur deux vendredi sur l'axe vers Paris, depuis Paris à Marseille jusqu'à Paris-Lyon également. Le trafic pour samedi, dimanche, le gros des départs des vacances, ce sera donné dans les prochains jours quand on aura le nombre de grévistes, indique la direction, qui estime que c'est scandaleux ce mouvement de grève pour les départs justement. Alors pour vendredi, on a aussi un appel à la grève sur l'axe sud-ouest. Là, vendredi, ce sera quasiment normal, toujours d'après la direction de la SNCF. Du côté des voyageurs, justement, à la FNOT, la Fédération Nationale des Associations des Usagers, Bruno Gazot, le président de la FNOT, estime que c'est faire payer aux voyageurs un conflit qui ne les concerne pas.
On est prévenu une semaine à l'avance. Ça fait pratiquement 2 ans maintenant qu'avec le Covid, les fêtes familiales n'ont pas pu forcément se tenir à l'occasion des fêtes de Noël. Et donc de choisir ce moment, c'est vraiment faire fi du droit des usagers à pouvoir se déplacer en train. Penser à tous ces enfants dans les familles qui sont séparés et qui doivent rejoindre leurs parents. C'est très très dur. Je comprends pas d'ailleurs que historiquement, à Noël, on fait une trêve, quoi.
Des difficultés également, Lauriane, à prévoir en région parisienne à partir de demain sur les TER et les Transiliens.
Oui, là aussi, appel à la grève qui concerne les rémunérations. Ça commence demain jusqu'à vendredi. Trafic fortement perturbé sur les RER C, D, E. On a également des perturbations sur le RER, le Transilien R. Ce sera perturbé aussi un peu moins sur le RER B, les lignes du Transilien H, N, P, U. Pour tout ça, vous retrouvez les prévisions sur le site de la SNCF qui conseille de regarder bien sûr les applications également pour organiser vos déplacements. Pour ceux qui ont un TGV annulé ce week-end, ce sera remboursé à 100%.
Et on y revient également en direct et en détail dans le journal de 19h d'Hélène Filly, Lauriane Delanoë du service économie. Merci. La réforme de l'assurance chômage peut désormais être appliquée dans sa totalité. Le Conseil d'État vient de retoquer le dernier recours des syndicats sur le mode de calcul des indemnités qui va pénaliser des centaines de milliers de chômeurs. Un système manifestement pas disproportionné selon la plus haute instance administrative. Le chômage, mais aussi la crise sanitaire ou les gilets jaunes, il en sera sans doute question ce soir lors des 2 heures d'entretien enregistrées par TF1 et LCI avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui dans cette émission Où va la France ne se déclare pas comme candidat à la présidentielle. En revanche, il laisse volontiers ses plus proches ministres organiser sa campagne en coulisses. Cet après-midi, le ministre du Tourisme, des PME, des Français de l'étranger, Jean-Baptiste Lemoyne, a par exemple lancé les comités pro-Macron à l'étranger. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Pas d'ambiguïté, ce ministre-là est bien en campagne.
Oui, depuis le siège de La République En Marche à Paris à 14h30, visioconférence avec une partie des 55 comités lancés.
Ici à Pékin, à Natania, en Israël.
Je suis entrepreneur à Londres.
C'est à vous, Genève.
Vous avez vu Boston, vous avez vu Ottawa, Montréal, New York, San Francisco.
À Sydney, en Australie, donc je suis vraiment très très loin de vous.
Les Français de l'étranger, c'est 600 à 700 000 voix largement acquises en 2017. Ça peut peser lourd dans un premier tour serré. Et pour Jean-Baptiste Lemoyne, il est largement temps de faire campagne.
Il nous reste 116 jours, donc le compte à rebours, il est lancé.
Et l'émission d'Emmanuel Macron, ce soir, tombe au bon moment donc.
Ça tombe bien, dans quelques jours, on sera tous réunis autour de la dinde, de la bûche. Eh bien écoutez, vous censurez pas, hein, parce que on a de quoi être fier, il n'y a pas à rougir.
Le plaidoyer au pied du sapin. Mais attention, pas de mélange des genres pour le ministre, il reste dans l'action comme le promet Emmanuel Macron.
Il l'a dit, il faut agir jusqu'au dernier moment. Et donc, on est naturellement 100% à la tâche. Mais
en même temps, on active aussi tous les réseaux pour sa réélection.
Je considère que je peux apporter aussi ma pierre à l'édifice. Et pas plus et pas moins, en tous les cas, qu'un autre militant.
Pas plus qu'un militant tout de même. Qui a un meilleur réseau que le ministre des Français de l'étranger pour structurer une campagne à l'étranger? C'est un grand classique, évidemment, mais on est assez loin du Nouveau Monde.
Maxence Lambrecq du service politique d'Inter. En attendant cette déclaration de candidature, le gouvernement se concentre sur la gestion de la crise sanitaire. Nouveau conseil de défense sanitaire se vend vendredi, avec à la clé quelques nouvelles mesures logistiques, renforcement des contrôles avec la Grande-Bretagne notamment, très lourdement frappée par le variant Omicron, accélération de la campagne de rappel pour les vaccins et recommandations pour les fêtes de fin d'année. L'Italie, elle, a déjà musclé son dispositif sanitaire. Notre voisin transalpin va restreindre à partir de demain ses conditions d'entrée pour les voyageurs européens. Bonsoir Bruce de Galzin.
Bonsoir.
Notre correspondant direct de Rome. Deux nouveaux tours de vis, notamment Bruce, des tests pour les vaccinés et des quarantaines pour les non-vaccinés. Hein.
Ah oui, en plus du test, les non-vaccinés devront s'isoler 5 jours. Autrement dit, les touristes Novax sont persona non grata pendant les fêtes en Italie, car cette nouvelle mesure sera en vigueur jusqu'au 31 janvier. Mais dès demain, tous les Européens, même vaccinés, en effet, devront aussi présenter un test antigénique de moins de 24 heures ou 48 pour le PCR s'ils veulent entrer en Italie. Et cela, eh bien, Bruxelles n'a pas vraiment apprécié, car depuis la création du pass sanitaire européen, les États membres sont censés se concerter. Un tel choix unilatéral sape la confiance des citoyens, a très vite réagi la vice-présidente de la commission, Vera Jourova, qui ajoute « Le pass n'est pas mort, c'est l'un des projets européens les plus réussis ». En fait, Bruxelles s'inquiète de voir un symbole de l'unité tomber. Le pass a démontré la capacité des Européens à s'entendre. Mario Draghi, lui, a simplement expliqué que le variant Omicron était très répandu au Danemark, au Royaume-Uni, et comme il faut déjà un test en provenance du Royaume-Uni, eh bien il fait pareil partout et affirme « Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à réfléchir ». Pour cela, on verra demain si tous les Européens sont d'accord lors de leur sommet à Bruxelles.
Bruce de Galzin en direct de Rome. En bref, encore à l'étranger, c'est la première fois qu'il reconnaît une part de culpabilité. Derek Chauvin, le policier blanc condamné à 22 ans de prison pour le meurtre de George Floyd, a plaidé coupable aujourd'hui de violation des droits constitutionnels de sa victime. Un changement de stratégie qui doit lui permettre d'éviter un nouveau procès. L'éruption du volcan de la Palma aux Canaries toucherait à sa fin. Depuis deux jours, la lave ne s'écoule plus du cône du volcan. La fumée ne s'en échappe que très ponctuellement, mais il faut encore attendre une dizaine de jours dans ces conditions avant de pouvoir crier victoire.
Et puis Sébastien, on a eu un peu moins chaud cette année, mais ça ne devrait pas durer.
Météo France vient en effet de publier son bilan annuel provisoire pour l'année qui se termine après plusieurs années de record de chaleur et une tendance lourde, on le sait, au réchauffement climatique, eh bien 2021 nous offre une légère accalmie, Sandy Dauphin.
2021 est une année un peu moins chaude que les années précédentes, surtout comparée à 2020, année de tous les records en termes de température. L'année se termine avec un bilan un petit peu au-dessus des normales saisonnières, explique Mathieu Sorel, climatologue à Météo France.
Nous terminerons l'année très certainement à plus 0,2 degrés par rapport au normal 81-2010, ce qui ferait l'année 2021, la 21e année la plus chaude en France depuis 1900.
Mais ce n'est qu'un répit dans la tendance lourde du réchauffement climatique. En 2021, la France a bien connu quelques records de froid. On a grelotté à Blois et à Orléans en mai et avril, mais globalement, il y a eu beaucoup plus de records de chaleur, notamment en hiver, février-mars et en septembre. Et c'est un signe qui ne trompe pas, explique Mathieu Sorel.
On compte 830 records de chaud contre 330 records de froid. C'est aussi un signal du changement climatique qu'on observe en France, puisqu'on a beaucoup plus de records de chaud battus que de records de froid. En climat normal, on aurait un ratio parfaitement égalitaire entre ces records de chaud et ces records de froid.
Au niveau mondial aussi, l'année 2021 est un peu moins dans le rouge que les années précédentes. Cette fois en raison du phénomène climatique la Niña, un courant qui a tendance à refroidir la planète. Mais là encore, c'est un répit dans le réchauffement climatique, prévient l'Organisation mondiale de la météorologie.
Sandy Dauphin, retrouvez les détails de ce bilan annuel de Météo France sur franceinter.fr.
Et on termine en pyjama devant notre écran.
Oui, un petit plaisir coupable, Fabienne, qui va devenir de plus en plus agréable grâce au métavers, cet univers parallèle dans lequel on vivra bientôt une deuxième vie virtuelle, puisque notre avatar, au lieu de ressembler à un elfe arc-en-ciel ou un punk mal fagoté, pourra désormais porter de la marque. Après Gucci ou Balenciaga, c'est au tour de Nike de se lancer dans l'univers numérique parallèle, l'équipementier sportif qui rachète une start-up de mode digital Artefact, spécialisée dans les baskets virtuelles, Laurine Benjebria.
Ce n'est pas la peine de faire de la place dans votre meuble à chaussures. Seul votre avatar en ligne portera ses baskets Artefact, comme l'explique Grégory Raymond, journaliste spécialiste en crypto-économie.
Ces personnages-là, il faut les pimper, faire en sorte qu'ils soient le plus uniques possible, un peu comme dans la vraie vie. On veut que son avatar soit le plus chic possible, donc pourquoi pas lui adjoindre une belle paire de Nike.
Son concurrent, Adidas, lui, a opté pour une autre solution, acheter directement des terrains dans un univers virtuel.
Dedans, ils vont pouvoir créer des musées virtuels, des magasins virtuels dans lesquels on pourra acheter des paires d'Adidas numériques.
Le concept séduit aussi le monde du luxe, qui y voit là une manière d'attirer de nouveaux clients, selon Ralph Toledano, président de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.
L'enfant, il y a 10 ans, va dépenser 8 euros dans le monde virtuel, dès qu'il aura les moyens, il va évidemment essayer de s'habiller lui-même. Il s'est vu très beau avec cette paire de chaussures dans le monde virtuel, il voudra être aussi beau dans le monde réel.
Le monde virtuel devient ainsi une source très importante de revenus additionnels, estime Jean-Christophe Liobé, associé au cabinet de conseil Faber-Novel.
Quand on voit qu'une petite société n'est capable de faire 100 millions de dollars de chiffre d'affaires en 3 ans, c'est le cas d'Artefact, sur des marques qui ont une énorme base client, vous pouvez générer plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires.
Rien que pour le luxe, le métaverse pourrait générer 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit 10% de la taille du marché.
Laurine Benjebria, puis en sneakers ou en chaussons depuis votre canapé, Fabienne, vous pourrez toujours encourager ce soir les handballeuses françaises. Match couperet ce soir en championnat du monde. Quart de finale face à la Suède, coup d'envoi à 20h30 depuis l'Espagne.
Je n'y manquerai pas. Merci beaucoup Sébastien Legénie. À tout de suite, bien sûr, dans Un jour dans le monde. Ce soir, vous nous expliquerez qu'on ne plaisante pas avec le coca, même en Colombie. Nous allons aussi voir chez nos voisins, proches ou lointains, comment est vécue leur vaccination des enfants, puisque tout le monde commence plus ou moins aussi enfant fragile ou tous les enfants. Et puis en deuxième heure, avec le téléphone sonne, on va parler expérimentation animale. Ce soir, avec un sondage passionnant commandé par des scientifiques sur le principe, vous êtes très majoritairement contre l'expérimentation animale, mais quand on vous demande à quoi ça peut servir et si on peut soigner des maladies, là vous êtes pour à 74%. Ça parle surtout d'un manque d'informations que doivent donner les scientifiques, quels animaux, combien, dans quelles conditions. Et la question sous-jacente à laquelle on va bien sûr essayer de répondre, c'est et si on pouvait faire différemment. Ça se passe au 01 45 24 7000.